Patricia Martin, votre invitée à présent par téléphone, la philosophe et féministe Camille Froidevaux-Métry.
Bonjour à vous, Camille Froidevaux-Métry. Constat révoltant que la recrudescence des violences conjugales depuis l'état de confinement, c'est révoltant, c'est décourageant, c'est incompréhensible, même s'il y a à cela des raisons que vous allez peut-être nous donner. Au point donc que le ministre de l'Intérieur a annoncé un dispositif d'alerte dans les pharmacies et qu'il y aura probablement très très bientôt des points d'accompagnement éphémères dans les grandes surfaces. Les bras vous en tombent, non? Enfin, moi, je sais pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire.
Alors, c'est une situation véritablement dramatique, hein, pour ces femmes. Alors, on estime à environ 200 000 femmes qui sont touchées par les violences conjugales. Et on comprend bien qu'en période de confinement, leur situation devient absolument intenable puisqu'elles se retrouvent à vivre 24 heures sur 24 avec leurs agresseurs. Donc c'est une situation dramatique à laquelle on peut aussi ajouter les enfants de ces femmes qui eux aussi souvent subissent des violences. Donc effectivement,
il y a ce petit garçon à Tremblay là qui est en je sais plus quel âge il a, mais qui est en état de mort cérébrale, donc qui a été battu par son père ou son beau-père, je ne sais pas.
Le problème, c'est comment ces femmes peuvent-elles fuir en période de confinement et surtout comment peuvent-elles faire connaître leur situation alors même qu'elles sont généralement privées de moyens de communication. Alors, la solution inspirée d'Espagne de permettre dans les pharmacies à ces femmes de se manifester avec un code au cas où elles seraient accompagnées par leur conjoint peut-être une solution, mais elle me paraît un peu fragile parce que comment faire pour les femmes qui n'ont même pas la possibilité de sortir.
Et puis par ailleurs, les points d'accompagnement dans les grandes surfaces?
Alors c'est peut-être un peu plus adéquat parce que pour le coup aller faire ses courses c'est quelque chose sans doute de plus facile à tenir et à obtenir en quelque sorte. Mais la question c'est qu'est-ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire comment faire pour que la police intervienne bel et bien et comment faire surtout pour éloigner les agresseurs des domiciles, et ça c'est un vrai problème.
Est-ce qu'il faudrait pas plus aussi, je ne sais pas, dans les mairies ou bien créer des spots radio, télévision? Est-ce que vous pensez que ça pourrait servir à quelque chose?
Écoutez, peut-être, on pourrait s'inspirer encore une fois peut-être de l'Espagne qui a mis en place un système de messagerie instantanée avec géolocalisation qui permet à la police de savoir immédiatement où se trouvent les femmes victimes. Dans tous les cas, il paraît absolument nécessaire et même urgent de réfléchir à des dispositifs véritablement efficaces. Je rappelle le chiffre glaçant, hausse des violences conjugales de 32% depuis le début du confinement.
Et même encore plus pour Paris, c'est 36%, oui. Ce sont les femmes qui prennent le plus de risques, là je parle d'une manière plus générale, et qui montent au front, les soignantes, les auxiliaires de vie, toutes celles qui font de l'aide à la personne, les caissières, toutes ces femmes finalement sans porte-voix.
Oui, c'est quelque chose dont on se rend compte de façon très brutale, c'est-à-dire que tous ces métiers du soin, tous ces métiers qui consistent à prendre soin d'autrui, des malades, des enfants, des personnes âgées, qui sont des métiers traditionnellement complètement méprisés, déconsidérés, notamment parce que ce sont des métiers féminins, eh bien on s'aperçoit aujourd'hui que non seulement ils sont nécessaires, mais plus que nécessaires, ils sont vitaux. Et donc la situation de toutes ces femmes qui se trouvent contraintes de continuer à travailler, qui n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de continuer à travailler, et qui le font donc au risque quotidien de l'infection, ce dont on se rend compte, c'est qu'il va bien falloir revaloriser à la fois les statuts, mais surtout sans doute aussi les salaires de toutes ces femmes qui assurent quelque chose d'absolument vital, puisque c'est notre continuité quotidienne qui est assurée grâce à elles. C'est grâce à elles que nos sociétés tiennent et s'entretiennent, et je prends cette formule à l'historienne Clyde Plumoville qui l'a utilisée pour qualifier ce travail trop longtemps invisible et inaudible de ces travailleuses invisibles.
Et qui font tourner la maison. Et quand vous parlez de tâches invisibles, c'est que on ne voit que les courses quand elles ne sont pas faites, ou que le ménage quand il n'est pas fait en réalité.
Oui. C'est quelque chose d'assez ahurissant quand on y pense, puisque tous les hommes qui ont pu pendant si longtemps échapper en quelque sorte à la vie domestique vont se trouver en position de prendre la mesure de ces tâches ménagères et de ces tâches domestiques, 72% assumées par les femmes. Et ces femmes, en récupérant leur conjoint, au mieux elles vont peut-être avoir une aide un peu véléitaire, mais au pire elles peuvent aussi récupérer un enfant supplémentaire. Et c'est ça que j'appelle un peu la double peine, voilà, triple peine pour toutes ces femmes dont certaines continuent à télétravailler aussi. c'est qu'elles doivent continuer d'assurer les tâches quotidiennes, auxquelles j'ajouterais une dimension qui me paraît très importante, qui est le travail émotionnel, ce qu'on appelle aussi la charge émotionnelle, puisque traditionnellement, ce sont les femmes qui rassurent, qui réconfortent, qui maintiennent aussi le lien, qui consolent, et puis qui font le lien entre les membres de la famille. Or, les femmes, comme nous tous aujourd'hui, sont aussi touchées par la maladie, par l'angoisse, et c'est à elles qu'incombe de tenir fort la cellule familiale, que ce soit sur le plan pratique, quotidien, mais aussi sur le plan émotionnel. Et quand en plus elles doivent travailler de chez elles, ça donne vraiment des situations inextricables.
Espérons que ce sera l'occasion d'une prise de conscience de la part des hommes, qu'il y aura un changement, un ébranlement, que peut-être ils vont se rendre compte mieux des choses. Il y a un autre point dont je voudrais qu'on parle ce matin avec vous, c'est l'IVG. Là aussi, il y a un recul du droit des femmes, puisque il y a moins d'interventions. Laurence Rossignol, la sénatrice, a proposé un amendement pour allonger la durée de l'IVG de 2 semaines. Ça a été refusé par le gouvernement. Certains centres de planning familial sont fermés. Donc, il y a des difficultés supplémentaires quand on veut se faire avorter.
Absolument. Alors déjà, chaque année, en temps normal, il y a quelques 5000 femmes qui sont obligées d'aller à l'étranger pour avorter en ayant dépassé le délai de 12 semaines. Mais là, on comprend bien que, d'une part, parce que dans les hôpitaux, les blocs opératoires sont réquisitionnés pour évidemment d'autres urgences. Et puis d'autre part aussi parce que certaines peuvent souffrir elles-mêmes du coronavirus et donc sont obligées d'attendre. Enfin voilà, c'est une situation très compliquée. Alors il faut rappeler que le planning familial reste ouvert, en tout cas pour ce qui est de sa ligne téléphonique, c'est le 0800 08 11 11, hein, je le rappelle, parce que voilà, à ce numéro, les femmes peuvent obtenir toutes les informations nécessaires et être accompagnées, effectivement, dans cette période particulièrement.
Et on va le mettre sur notre site. Voilà. Camille Froide-Vaumétry, je rappelle que vous êtes donc philosophe, professeur de sciences politiques à l'Université de Reims, et je voudrais dire que vous publiez un livre qui n'a pas vraiment de lien avec ce dont on vient de parler, mais Seins en quête, Seins S-E-I-N-S, en quête d'une libération, c'est aux éditions Anna Mosa, c'est le fait de ne plus porter de soutien-gorge est une libération pour la femme.
Oui, absolument, mais je prends les quelques secondes qui me restent pour vous dire qu'il paraît très important et urgent de réfléchir à un agenda féministe de sortie de crise, que nous ne fassions pas comme lors des précédentes crises, par exemple Ebola ou Zika, où la perspective de genrée était complètement négligée. Il faut que nous prenions en compte les données genrées de cette crise et que nous anticipions pour qu'au moment où nous sortirons de la crise, nous n'oublions pas les femmes dont on a parlé ce matin, qu'il va falloir continuer d'accompagner.
Merci à vous d'être intervenu ce matin. Merci beaucoup.